J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour à tous et bienvenue sur Aléa, l'émission des ateliers ludosophiques sur la philosophie des jeux. C'est Régis qui vous parle et aujourd'hui nous allons aborder l'intrigante question de l'intelligence artificielle et des jeux. La semaine dernière, nous avions vu que l'on pouvait aborder la question de l'intelligence artificielle dans les jeux de deux façons possibles. Celle de l'intelligence calculatoire ou celle de l'intelligence sociale, c'est-à-dire... Est-ce qu'on veut construire une IA qui va être capable de gagner intelligemment ou est-ce qu'on veut construire une IA qui va être capable de jouer intelligemment avec des êtres humains? C'est cette deuxième question qui va nous occuper aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons créer des programmes autonomes qui vont simuler le comportement humain pour que nous puissions, dans des jeux, croire que nous sommes face à d'autres êtres humains? Ou en tout cas, si ce n'est pas croire, que l'intelligence artificielle fasse suffisamment illusion pour que nous ne nous ennuyions pas à interagir avec elle. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'allume mon ordinateur et que je lance un jeu d'aventure. Prenons Mass Effect, par exemple, qui est un jeu de science-fiction où l'on se déplace dans un univers space opéra à travers la galaxie. Dans ce jeu, on va être amené à rencontrer plusieurs personnages et à discuter et à échanger avec eux, et même parfois à se battre contre eux si ce sont des ennemis. L'ensemble de ces personnages vont avoir des comportements, une psychologie visible à travers des gestes, des paroles ou des actions qui vont tenter de nous faire croire que cet univers est, si ce n'est réel, au moins tangible et vraisemblable. Si nous étions effectivement dans une colonie spatiale à l'autre bout de l'univers et que nous attaquions un personnage, nous pourrions nous attendre à ce qu'il réagisse de la sorte, comme peut le faire l'intelligence artificielle dans le jeu. Elle va donc simuler de manière crédible le comportement humain. C'est donc un des enjeux de l'intelligence artificielle. Essayer de faire croire que l'on est humain, imiter l'humain. Il s'agit ici de ce qu'on appelle le jeu de l'imitation, inventé par Alan Turing, le père de l'informatique moderne. Turing était un mathématicien anglais, notamment connu pour ses travaux en cryptologie sur la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, un moment de l'histoire qui est retracé dans le film qui s'appelle justement The Imitation Game, où Alan Turing est joué par Benedict Cumberbatch. Mais Turing est aussi connu pour ce qu'on appelle le fameux test de Turing, qui essaye de définir de manière indirecte une intelligence qui s'apparenterait à l'intelligence humaine. Dans un article intitulé « Les machines de calcul et l'intelligence » publié en 1950 dans la revue Mind, l'esprit, Turing essaye de répondre à la question « Les machines peuvent-elles penser ?» Pour ce faire, il propose de mettre en place un test qu'il appelle le jeu de l'imitation. Celui-ci oppose un joueur A, humain, à deux partenaires, le joueur B, un autre humain, et le joueur C, une machine calculante artificielle. Le joueur A est isolé des deux autres. Il doit, en posant des questions à B et à C, déterminer qui est l'humain et qui est la machine. La machine, elle, doit s'efforcer de tromper le joueur A en se faisant passer pour un humain. Et le joueur B, qui est lui aussi humain, doit de son côté essayer d'aider le joueur A à retrouver qui est la machine en prouvant que lui-même est bien humain. Dans ce jeu, les trois joueurs ne peuvent pas communiquer directement entre eux. Ils s'adressent les uns aux autres par l'intermédiaire d'un téléscripteur. Le joueur A ne peut donc pas utiliser au cours du jeu des caractéristiques telles que l'apparence extérieure, la voix ou les performances physiques pour déterminer qui est l'ordinateur et qui est l'être humain. Seul ce qui relève de l'échange linguistique est pris en compte lors du test. Selon Turing, si la machine arrive à se comporter comme un humain dans ses conditions de jeu, alors on peut dire que la machine est aussi intelligente que l'homme, du point de vue de l'expression de la pensée et de la communication. Elle serait dans ce cas arriver brillamment à imiter l'homme. Dans les jeux, et particulièrement dans les jeux vidéo, les créateurs cherchent parfois à créer de telles intelligences qui vont réagir comme un humain. Si je prends l'exemple de Mass Effect, lorsque je joue, je vais interagir avec des personnages, qu'on appelle des personnages non-joueurs, et qui sont incarnés par des intelligences artificielles. Si je veux avoir une impression d'immersion dans l'univers, il faut que ces personnages agissent comme des humains pour que je puisse m'y identifier, et éventuellement avoir une certaine empathie avec eux. Imaginons que j'arrive sur une planète, que je rencontre un personnage et que je lui demande, par exemple, où est-ce que je peux trouver des artefacts protéens. Il me répond qu'il ne sait pas, que cette civilisation est disparue depuis des siècles, mais qu'il connaît quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être nous renseigner. Dans cet échange, j'ai vraiment l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui existe, qui a une histoire et qui agit de manière crédible pour un humain. Il peut, pour le moment en tout cas, faire illusion. Maintenant, imaginons que je retourne voir ce même personnage, après avoir crapahuté sur plusieurs planètes, et qu'il me serve exactement le même discours, avec exactement le même timbre de voix et les mêmes gestes. J'aurais tendance à me dire « Tiens, ce personnage tourne en boucle, ce n'est pas un véritable humain. Un véritable humain, lui, m'aurait répondu autre chose. Par exemple, « Je vous ai déjà vu » ou « Pourquoi vous n'arrêtez pas de me poser les mêmes questions ?» L'intelligence artificielle derrière le personnage n'aura donc pas passé le test de Turing. Elle n'aura pas réussi à nous flouer suffisamment longtemps pour nous faire croire qu'il s'agissait d'un autre humain. Un des enjeux de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo est donc d'essayer d'améliorer cette vraisemblance des personnages pour améliorer notre immersion dans les jeux. Mais essayons maintenant de prendre un peu de recul et nous demander à quelle intelligence est-on véritablement confronté lorsque nous sommes dans les jeux vidéo. Est-ce que l'intelligence artificielle s'incarne seulement dans les personnages non-joueurs avec qui nous pouvons communiquer verbalement? En réalité, on pourrait aussi considérer l'intelligence artificielle d'un point de vue global, comme tout ce qui communique avec le joueur dans son expérience de jeu. Retournons à Mass Effect. Imaginons que je sois en train de visiter une planète sauvage. Quand je me balade dans la nature, mon personnage voit plusieurs choses différentes. De l'herbe, des arbres, peut-être des animaux, ou une colline au loin. Si je m'approche de la colline, je la verrai grandir. Donc toutes ces interactions avec l'environnement du jeu sont créées et gérées par ce qu'on appelle le moteur de jeu. Le moteur de jeu regroupe en fait tout ce qui a trait au fonctionnement global du jeu, comme la gestion des entrées et des sorties, des mouvements de clavier ou de souris qui vont correspondre à des mouvements d'écran, le son et la musique d'ambiance, par exemple le bruissement de l'herbe quand je marche dans la forêt, toute la physique de l'environnement en fait, les déplacements, les collisions, etc. etc. Donc, dans une conception globale de l'intelligence artificielle, on va considérer que l'IA va essayer, plus que de simuler un comportement vraisemblable, mais d'interagir de manière cohérente et générale avec le joueur pour lui proposer une expérience de jeu de qualité. C'est donc l'ensemble du moteur de jeu qui est impliqué dans cette relation avec l'humain. Et il n'essaye pas de se faire passer pour un être humain, mais bien de l'accompagner dans son expérience de jeu. On passe donc d'un objectif de simulation du comportement à un objectif de simulation d'un monde entier, où le test de Turing est maintenant généralisé à tout un univers, à de nouvelles sortes de relations entre l'homme et la machine, où l'objectif est d'explorer des univers virtuels et des nouvelles formes d'expérience.
Oui, mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « On a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus.